Bonjour à tous et à toutes et bienvenue. Vous écoutez le podcast Human Colors. Dans chaque épisode, j'invite un ou une développeuse pour parler de techno, de pratiques de développement ou bien tout simplement de sujets en lien avec l'informatique. Au programme également des parcours de dev qui j'espère vous inspireront. Hasard du calendrier en ces temps de confinement, puisqu'aujourd'hui je retrouve Vincent Debris qui est développeur à Nice pour parler du travail en full remote. Alors c'est un épisode qui avait été enregistré en décembre l'année dernière et qu'on choisit de diffuser aujourd'hui. J'espère qu'il vous sera utile à vous qui peut-être êtes forcé d'être en télétravail aujourd'hui. Alors dans cet épisode avec Vincent, on a parlé d'organisation d'équipe, donc comment s'organiser en full remote, mais aussi de l'isolement. Quelles sont les frontières aussi entre la vie professionnelle et la vie perso, mais aussi et surtout du rôle et de l'importance de la culture d'entreprise pour que tout ça marche. Restez avec nous, Vincent va donc nous partager son expérience et plusieurs conseils. Très bonne écoute. Bonjour Vincent.
Bonjour.
Alors ma première question, est-ce que tu peux te présenter ?
Ouais. Je suis Vincent Debris, je suis développeur full stack, Ruby, JS. Je bosse depuis un moment maintenant, donc j'ai pas toujours bossé en remote. J'ai d'abord commencé par travailler dans différentes ESN comme consultant, je pense comme pas mal d'autres développeurs. Je suis passé chez Octotechnologie notamment jusqu'en 2011. Là, je bossais de manière hyper classique chez le client ou des fois dans les locaux sur des forfaits, mais donc pas beaucoup de remote. En 2011, je suis parti monter une start-up dans le livre numérique qui s'appelle YouBooks. On fait des livres numériques sur abonnement, donc c'est un peu le même modèle que Netflix, Spotify, mais appliqué au livre numérique. Donc là, je faisais un peu de remote et tout le monde dans la boîte en faisait aussi, mais c'était pas une caractéristique de la boîte, en tout cas au début quand on l'a monté. Et maintenant, aujourd'hui, il y a des salariés qui sont en remote. Mais donc, c'est comme ça, petit à petit, que j'ai découvert le concept du travail à distance, de chez soi ou d'ailleurs. Et du coup, pour moi, le vrai moment où je me suis intéressé particulièrement au remote, je me souviens, j'étais en vacances, en fait. Du coup, je code depuis que je suis ado, quoi. Je faisais des jeux sur ma calculatrice quand j'étais gamin. Donc pour moi, ça a toujours été un loisir. Donc en fait, j'avais l'habitude de coder en vacances aussi, quoi. Je partais toujours, quand je pars toujours avec le PC. Et puis, des fois, de temps en temps, je code aussi, quand j'ai l'occasion. Et je me souviens très bien, on était en Espagne avec ma meuf, on était en vacances et on était au bord de la piscine. Elle devait être à côté en train de lire un bouquin et tout. Moi, j'étais en train de coder tranquillement. Et je me souviens que ce jour-là, j'avais trouvé que j'étais genre vraiment productif. Et c'était surtout, il y avait un côté assez, assez génial à pouvoir bosser, prendre des pauses, aller se baigner un peu, revenir, continuer à bosser et tout. Et je m'étais dit, mais en fait, il faudrait que je fasse ça tout le temps, quoi. Et alors, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, mais j'étais revenu avec un peu cette idée-là en me disant, mais j'adore voyager. Il y a trop moyen de bosser à distance. À l'époque, j'avais déjà entendu parler un peu du concept de digital nomade, mais pas tant que ça. Du coup, c'est là où j'ai commencé à creuser un peu le sujet, que j'ai trouvé vraiment passionnant. Et de fil en aiguille, je me suis dit, OK, comment est-ce que je fais pour organiser mon travail de manière à pouvoir bosser en full remote. Du coup, ça m'a amené à tester un peu le full remote à la fois en tant que freelance, pour des petits clients, pour des plus gros clients, notamment là en ce moment, je bosse pour Launcher, qui est une jeune start-up, mais déjà une grosse start-up qui se développe très vite. Et dans l'équipe, on est tous en full remote. Donc ça, c'est une expérience intéressante. J'ai aussi, du coup, en 2016, monté une autre start-up. Et là, pour le coup, quand je l'ai créée dès le début, avec les associés, c'était clair. Donc la boîte, c'est Corporico, on fait des paris sportifs en entreprise. Et là, toute la boîte est organisée de manière à ce qu'on puisse bosser en full remote.
La raison pour laquelle on se parle aujourd'hui, c'est que justement, on voulait parler de boîtes en fait, qui s'organisent avec des employés en full remote. Parce qu'en fait, c'est aujourd'hui la façon dont tu travailles. Et moi, je me demandais, en fait, quand tu as décidé donc de te lancer dans ces aventures avec du full remote pour tout le monde, à quel challenge, en fait, tu t'es confronté?
Du coup, si je prends le cas de Launcher, par exemple, là, c'est intéressant parce qu'on est vraiment sur des grosses équipes. Typiquement, il y a plusieurs teams en remote. La team dans laquelle je suis, on est 8, donc des devs full stack, back-end, front-end, y compris les graphistes. Alors, il y a une spécificité chez Launcher, c'est qu'il n'y a pas de product owner, c'est les devs qui, en gros, chaque équipe a un lead dev qui fait le lien avec le market, mais toute l'équipe, en tout cas, est vraiment full remote et du coup répartie un peu sur toute la France. Il y a des devs, et d'ailleurs, du coup, c'est amusant, il n'y a pas beaucoup de devs qui sont à Paris, du coup. Si on regarde les challenges que ça pose pour faire fonctionner toute cette équipe à distance, les principaux points sont vraiment des sujets de communication. Typiquement, je pense que la communication, c'est aussi un des sujets pour lesquels les projets informatiques faillent de toute façon. En général, quand il y a des retards ou des projets qui se plantent, on se rend compte qu'en fait, c'est une succession d'incompréhensions, de choses qui n'étaient pas claires, pas explicitées. Et il y a beaucoup de problèmes qu'on peut ramener à des sujets de communication. Et du coup, quand on est en remote, ces problèmes-là, ils ne sont pas forcément différents, ils sont amplifiés par la distance.
Je ne sais pas si vous êtes dans un cadre agile ou pas aujourd'hui, mais quand tu regardes, en fait, il est plutôt préconisé justement de faire du face-à-face, de ne pas justement avoir des équipes éloignées physiquement.
Plus que l'éloignement, je pense que vraiment, effectivement, dans le manifeste agile, c'est vraiment au cœur du sujet, c'est-à-dire il faut que les gens communiquent, mais bon, l'agile maintenant, c'est vieux, et à l'époque, quand ils mettaient ça en avant, c'était plutôt pour faire opposition entre c'est vraiment communication over documentation. Donc l'idée, c'est de dire qu'on communique non pas via des spécifications fonctionnelles avec des gros documents écrits et plutôt il faut que les gens se parlent. Et effectivement, du coup, le premier réflexe, la façon la plus simple de se parler, c'est quand on est colocalisé, tous dans les mêmes bureaux, etc. Donc avoir toute l'équipe dans une même pièce, faire un genre de war room, ça marche très très bien, ça c'est clair. Après, aujourd'hui, on a tous les outils pour pouvoir avoir le même confort de communication à distance. Et ce qui est vraiment important, je pense, c'est la fréquence à laquelle on communique. Il faut se parler tout le temps. Et on peut le faire en étant en face l'un de l'autre, mais on peut aussi le faire à distance.
Et concrètement, alors quels sont les outils aujourd'hui ou quels sont les process que vous avez mis en place pour que la communication se passe bien avec ces équipes dispatchées?
Du coup, on fonctionne en Scrum, donc on a un certain nombre de rituels qu'on retrouve dans beaucoup d'équipes. On a un weekly meeting, donc on fait des sprints d'une semaine. On a un weekly meeting en début de semaine le lundi où on fait un petit point sur la semaine passée et surtout on cadre du coup les stories qui vont être réalisées pendant la semaine. On répond aux différentes questions, on se répartit le travail et ensuite, ça aussi c'est un point intéressant, initialement on faisait ensuite des daily tous les jours, l'équivalent de stand-up, où on faisait donc à chaque fois le point sur ce qui a été fait la veille, ce qu'on va faire aujourd'hui. On a privilégié le fait d'avoir plutôt deux stand-up, donc tout le mercredi et le vendredi, pour faire des points d'étape. Et ensuite, ça ne veut pas dire du coup justement qu'on ne se parle que trois fois par semaine. En fait, on se parle tout le temps. Mais grosso modo, l'idée, c'est de dire on profite justement en remote. Un des gros avantages, c'est justement la possibilité d'être vraiment focus. Ça, c'est un des gros avantages, je trouve, du remote par rapport au gros open space comme on peut connaître, où on est tout le temps interrompu. Ça peut être quelqu'un qui vient nous voir, mais ça peut être aussi des fois juste des personnes qui parlent à côté. D'ailleurs, on le voit dans les open space, tout le monde essaye de s'isoler et de reproduire un peu ça avec des casques. Mais on est quand même beaucoup plus facilement focus et concentré quand on est à distance. Donc l'idée, en fait, concrètement, c'est que le lundi, on se répartit. Souvent, on est des teams de deux sur des features. Et donc ensuite, on va se parler entre les deux devs qui vont réaliser la feature toute la journée sur Slack. Donc voilà, comme un peu tout le monde aujourd'hui, on est sur Slack. Donc, ça peut être par écrit, mais on s'appelle vraiment plusieurs fois par jour. Et je pense que ça, c'était une des clés du succès, c'est de dire, en fait, à chaque fois qu'on aurait eu envie de parler avec la personne en face de nous, bah là, du coup, comme on est tous sur Slack, on ping la personne, on s'appelle, et on s'appelle 5 minutes, 10 minutes, 1 heure s'il le faut. Et donc, on communique toute la journée. Mais en fait, c'est stand-up, même si on cherche à les rendre courts. Quand on est à distance, il y a beaucoup de... Enfin, ces occasions de se parler tous ensemble. On essaye de les timeboxer à 15 minutes, mais souvent, en fait, ça a tendance à dévier en daily réunion. Aussi parce que il y a des choses dont il faut qu'on se parle. Et l'idée de se voir que... non pas tous les jours, mais le mercredi et le vendredi, c'est aussi de dire, OK, bah là, on prend un temps où on va parler de tout ce qu'on a à se dire là pendant ces deux derniers jours. Donc souvent, ces daily ne prennent pas 15 minutes, mais prennent plutôt entre une demi-heure et 45 minutes. Et ensuite, au quotidien, on se parle à deux toute la journée sur Slack. Et ça fonctionne plutôt bien d'avoir cette mode de fonctionnement.
D'accord. Et alors, tu sais, chez Human Coders, on bosse aussi comme ça. En fait, on est tous en remote, même si aujourd'hui, on est tous localisés à Montpellier. Mais c'est vrai que, en fait, on est dans ce modèle-là. Ça marche aussi plutôt bien et on a tendance, pour des choses importantes, en fait, à utiliser le téléphone. En fait, je dirais qu'en fonction de l'urgence ou de l'importance d'une info, on va utiliser plutôt un email, plutôt Slack ou plutôt le téléphone. Alors, je ne sais pas si c'est pareil pour vous. Et moi, j'avais trouvé quand même que Slack avait un peu ses limites. Je trouve que quand tu envoies beaucoup de messages, tu peux aussi facilement être noyé et perdre des informations. Je ne sais pas si tu as le même sentiment et du coup, si vous avez mis en place quelque chose pour éviter ça.
Ouais, tout à fait. Donc, il y a vraiment une différence, je pense, entre la communication synchrone et asynchrone. Du coup, Slack, par définition, c'est du chat. Donc, effectivement... on l'utilise beaucoup, mais plus pour pinguer des personnes. C'est vrai que quand on a besoin de solliciter quelqu'un ou quelques personnes sur un sujet, bon, on se met tous dessus et on bosse. Mais du coup, effectivement, c'est pas hyper adapté si toi tu veux décrocher pendant quelques heures pour pouvoir te concentrer, revenir et rattraper le fil des discussions, c'est pas idéal. Du coup, nous, on a plutôt tendance à dire, OK, ce qui est vraiment des éléments assez importants, assez structurants, que ce soit tout ce qui va servir plus ou moins de spec, de documents pour le projet, en fait, on va mettre ça plutôt sur des documents sur Drive ou ailleurs, où là, du coup, on rassemble vraiment les informations importantes là-dessus. Et après, Slack, vraiment s'en servir que pour ce qu'il est, quoi. Donc que pour de la communication temps réel. C'est pas un problème simple. Et je sais qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas encore testé et que j'aimerais bien qu'on teste. Je sais que chez Doist, c'est une boîte qui bosse entièrement en full remote et qui, eux, en plus, sont sur plusieurs fuseaux horaires. Donc là, ça souligne encore plus ce problème de communication asynchrone. Ils ont un outil qui vient en complément de Slack et qui se présente plutôt un peu sous forme de forum. L'idée, c'est de dire sur un sujet, donc ça peut être un projet par exemple, en fait, on crée un thread de forum sur ce projet et là, on va plutôt avoir tendance à construire des posts un peu plus détaillés où il y a ça. Ensuite, il y a aussi des patterns qui existent pour pouvoir noter des décisions d'architecture et donc plutôt utiliser le wiki de GitHub pour centraliser tout ce qui va être prise de décision. On discute éventuellement en temps réel, mais à la fin, ce qu'on a envie de figer et de conserver, pas le laisser dans Slack et ensuite utiliser la recherche de Slack, c'est toujours un peu fastidieux à la longue. Donc là, plutôt centraliser ces docs-là et les formater en dehors de Slack, quoi.
Et bon, on a parlé un peu du positif. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose sur tout le positif que tu vois dans une organisation en full remote.
Ouais, complètement. Je pense que, un peu comme on disait tout à l'heure, je pense que c'est un bon... Il y a plein d'avantages. Il y a des avantages, je pense, déjà au niveau de la boîte. Clairement, il y a un gain de productivité à bosser en remote. Tous les gens qui bossent en remote, en tout cas, le ressent, c'est-à-dire quand on arrive à mettre en place une organisation qui marche bien, on est beaucoup plus efficace. Donc ça, je pense que du point de vue de la boîte, il y a vraiment quelque chose à gagner à ce niveau-là. Sur le recrutement, on en parlait un peu tout à l'heure, le fait que tous les devs sont essentiellement pas à Paris et ailleurs, c'est en fait un énorme avantage. Il y a plein de gens qui ont envie de vivre ailleurs qu'à Paris. Et aujourd'hui, la réalité, c'est que la plupart des projets, il y a beaucoup plus de projets à Paris qu'ailleurs. Ça, c'est un fait. Et donc, du coup, le fait de pouvoir dire, mais tu vas pouvoir travailler où tu veux et quand même bosser du coup sur un projet en pleine avec voilà de l'hypercroissance, des vrais challenges tech et tout, etc. Ça permet de faire venir des gens, je pense, qui seraient peut-être pas venus autrement. Donc ça, c'est des avantages pour la boîte. Après, à titre perso, c'est un peu un choix de vie aussi. Donc bon, forcément la possibilité et donc là je rejoins un peu le sujet des digital nomades. T'as ce côté location independent, donc la possibilité de bosser où on veut. Ça peut être une possibilité de voyager si on le veut, mais c'est pas du tout une obligation. Juste la possibilité, voilà, on a des gens. Je donne un exemple, par exemple, que je trouve génial. Il y a un des devs dans l'équipe, il bosse vraiment dans un endroit assez reculé, un peu dans la montagne, et dans son temps perso, il est apiculteur. Donc, il a, je crois, 80 ruches et tout, etc. Et en fait, toute la journée, il dev sur un projet assez passionnant techniquement. Donc, pouvoir combiner les deux, c'est quand même assez génial.
Non, c'est vrai que ça te permet de repenser un petit peu ta vie. Peut-être d'avoir et bien sûr beaucoup de temps libre pour toi et d'autres éventuellement activités qui n'ont rien à voir avec le dev en fait, puisque si je comprends bien, t'as aussi, alors vous avez quand même vous dans votre organisation des événements, des cérémonies à certains moments quand même dans le temps, mais j'imagine que vous êtes assez flexible après sur les horaires, enfin le tout c'est de s'organiser avec votre binôme, en gros c'est ça.
Ouais, complètement. Ça, c'est clair que chacun est du coup complètement autonome pour organiser le boulot, sa journée de travail comme il l'entend. Du moment que ça marche bien, en fait, il y a pas beaucoup de contraintes fortes là-dessus. Si on parle aussi des, justement, ça rejoint un peu quand tu parles des rituels, je pense un des inconvénients qu'il peut y avoir au remote, c'est le côté peut-être des fois un peu isolation. Je sais qu'il y a certaines personnes au début qui du coup restaient beaucoup chez elles et ça c'est clairement quelque chose qui est pas idéal. Il y a plusieurs choses qu'on a mis en place pour ça. Déjà on se voit tous ensemble, toute la boîte, plusieurs fois par an, donc grosso modo tous les 3-4 mois toute la boîte est réunie au même endroit. Là, l'idée, c'est on bosse, mais c'est aussi surtout une occasion de tous se voir, c'est hyper important. Après, la boîte, et ça aussi, c'est un message, alors plus pour les gens, s'il y a des gens qui veulent essayer de mettre ça dans leur boîte, il ne faut vraiment, vraiment pas économiser sur billets de train, billets d'avion. À chaque fois que ça a été nécessaire et qu'on avait le besoin de se dire, même au sein de la team, on va tous se voir, on fait ça généralement à Montpellier, Unshore rushing jamais à payer des billets d'avion, de train ou de voiture d'essence, en tout cas rassembler tout le monde à chaque fois que c'est nécessaire. Et ensuite, même si ça, bon, c'est donc régulier, ça reste tous les X mois. Et du coup, ce qu'on a mis en place pour reproduire un peu le côté machine à café qui est sympa et que des fois on peut perdre un peu, c'est des apéros remote. Donc ça, grosso modo, c'est tous les 15 jours, on se prend une heure après le boulot. Donc c'est hyper open, c'est toutes les équipes remote. Il y a un chat sur Slack tous les mardis à 18h30. Tous les gens qui veulent venir se retrouvent sur le chat et puis on prend tous une bière, un coca, un thé, un whisky, ce qu'on veut, quoi. En tout cas, l'idée, c'est de boire un verre ensemble avec la cam à distance et parler.
Donc, c'est un apéro à distance. C'est vraiment...
Ouais, c'est vraiment l'apéro, exactement. Ça marche pas très bien, quoi.
Ok, j'avais jamais entendu, en fait, c'est rigolo. Mais c'est vrai quand même que moi, ce que je trouve dur dans cette configuration, c'est ce côté isolement. Enfin, le fait de ne pas voir les gens, mine de rien, même si tu les as au téléphone, c'est quand même pas pareil, quoi. Et je sais que ce qui a pu manquer, ouais, c'est ce côté, tu sais, la petite pause que tu as à la machine à café, quoi. Des fois, tu bosses, t'en as un peu marre, t'as envie de prendre une pause, et quand même, c'est sympa de pouvoir papoter un peu avec ton voisin ou ton collègue. Et quand t'es isolé comme ça, que tu travailles seul derrière ton poste, bah, tu l'as pas, en fait. Et ça, pour moi, c'est peut-être le plus gros désavantage, en fait, de cette configuration.
Ouais, et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut organiser, et chacun, du coup, y répond différemment. Je pense qu'ensuite, bon, c'est vraiment ensuite aussi une histoire, justement, de personnalité. Il y a sûrement des gens qui sont un peu casaniers, ça les dérange peut-être pas d'être tout seul chez eux tout le temps, mais c'est clairement pas la majorité des gens. Moi, déjà, à titre perso, si je reste plus de 2 jours d'affilée chez moi, en fait, je pète un câble. Enfin, j'ai besoin de voir des gens, de sortir. Donc, moi, ce que je fais tout le temps, c'est que je bosse tout le temps à l'extérieur. Et c'est aussi ça que j'adore dans le remote, c'est que mon bureau, c'est régulièrement des cafés que j'aime bien. Ça peut être juste une terrasse dans un endroit sympa. C'est une super occasion de sortir. Moi, j'ai beaucoup voyagé pendant un moment grâce au remote. Et du coup, tu fais plein de rencontres. Et donc, enfin, moi, je sais que j'avais une vie sociale largement aussi riche quand j'étais en remote, et un peu différente, parce que du coup, je rencontrais plein de gens, des gens différents. Quand je finissais le boulot, bah, j'étais déjà à l'extérieur. Alors, quand on est à l'étranger, on rencontre encore plus de gens, mais même quand on est en France, bon, plus petite parenthèse, petite anecdote marrante, j'ai un stand pour mon laptop qui s'appelle le
Roux. Quoi ?
En fait, c'est un petit device en plastique qui permet de surélever ton laptop pour le mettre à hauteur de... Donc ça, c'est hyper confortable. Du coup, je me suis vraiment reproduit un petit... tout un setup mobile. Ça me fait un petit bureau. Donc, j'ai mon trackpad, mon petit clavier Bluetooth, mon laptop. Et du coup, quand j'arrive dans un café, que je m'installe quelque part en terrasse, par exemple, je prends mon casque, mes écouteurs, mon setup. Les gens, ils hallucinent. Franchement, ça m'arrive tous les jours qu'il y ait des gens qui viennent me voir et qui me disent « Mais
qu'est-ce que tu fais ?
Vous faites quoi ?» en fait, du coup, en fait, je rencontre plein de gens, se discute et tout. Et c'est vrai qu'en plus, il y a toujours ce côté sympa où les gens, il y a plein de gens qui, pour eux, ça leur paraît impossible, le fait de dire « Mais attends, tu bosses de où tu veux, t'es à distance. » Ça leur paraît incroyable. Et à chaque fois, je me dis « Ouais, mais c'est vrai que c'est quand même une chance, quoi. » Et donc, exploiter ça, c'est assez sympa. Ensuite, je sais que dans l'équipe, il y en a beaucoup aussi, tout simplement, qui bossent en coworking. Donc, qui vont dans un café. N'importe quoi, je dis justement.
Oui, dans un espace de coworking. Oui, effectivement, il y en a pas mal. Hein, il y en a de partout. Maintenant, je pense qu'il y a beaucoup d'endroits qui proposent ça.
Du coup, par rapport au coworking, par exemple, ça, c'est un truc, je trouve, qui est bien chez Launcher, c'est qu'ils te financent une partie du coworking, par exemple. Donc ça, c'est un moyen très facile de retrouver ce côté un peu, justement, un petit peu open space, mais à plus petite échelle que plein de gens aiment. Donc ça, on peut retrouver ça. Donc voilà, il y a plein de façons différentes de retrouver le côté social. Et ça, c'est sûr que si on perd l'aspect social en étant en remote, je pense qu'en fait, c'est une forme d'échec, en fait. Je pense qu'il faut au contraire se dire, on va utiliser le remote pour continuer à avoir une vie sociale, mais différente du bureau, avec un peu le train-train quotidien de on vient tous les jours voir les mêmes personnes et tout, etc. Enfin, je sais qu'à titre perso, c'est un peu différent.
Moi, j'avais une question sur les travers, en fait, des remotes. En fait, je ne sais pas si ça t'est arrivé, mais... Du coup, tu t'organises comme tu veux, tu travailles quand tu veux. Est-ce qu'à un moment, tu n'as pas le risque d'aller bosser le week-end, tu vois, de ne pas arriver en fait à couper, de bosser le soir, de tomber dans un rythme pas forcément très sain. Est-ce que ça t'est arrivé ? Est-ce que tu l'as vu ? Qu'est-ce que t'en...
Ouais. Ouais, tout à fait. Donc ça, c'est un super... c'est un vrai sujet. Typiquement... Il y a effectivement cette frontière entre voilà, la, la vie perso, la vie professionnelle, qui, les frontières deviennent un peu floues à partir du moment où on bosse en remote. Moi, je me souviens d'un pote freelance qui m'avait dit un truc une fois, ça m'avait marqué, mais il dit, quand tu bosses à distance chez toi, au début, c'est génial, tu as l'impression de pouvoir justement de travailler chez toi, et un jour, en fait, tu réalises que tu vis au travail. Et je m'étais dit, putain, en fait, c'est vrai, c'est vraiment le risque. Et par rapport à ça, je pense que justement, le fait de s'imposer, de pas forcément toujours travailler chez soi, en coworking, ça peut être un moyen de recréer cette coupure. Ça, c'est une première façon. Après, je sais que chez Launcher, il y a beaucoup de personnes qui utilisent justement sur Slack, on peut définir des heures pendant lesquelles on est dispo et des heures pendant lesquelles on coupe les notifs. Et ils utilisent ça et ils s'y tiennent. Et du coup, tout le monde respecte ça dans la boîte. Je pense qu'il y a vraiment un sujet de culture d'entreprise par rapport à ça. Partir du principe qu'on peut pinguer les gens. Par contre, si les gens se sont mis en notification off, eh ben, du coup, ils verront le message le lendemain. Ça viendrait à l'idée de personne chez Launcher de dire il m'a pas répondu, je vais lui envoyer un SMS. À part méga urgence, la prod est cassée ou autre, mais ça, c'est des choses qu'on retrouve déjà en entreprise quand il y a vraiment une alerte, un truc. Et ça arrive. En fait, la réalité, c'est que ça arrive jamais. Je crois que en 3 ans, je crois que ça a dû arriver une fois. J'ai un souvenir où on a eu une attaque sur le site, mais ça arrive jamais en fait que les gens de manière intrusive viennent te solliciter quand toi tu l'as pas demandé. Donc en fait, s'il y a cette culture d'entreprise, derrière ensuite c'est chacun de choisir où est-ce que je mets les barrières et comment est-ce que je m'organise pour protéger un peu ma vie perso. Et après, c'est vrai que encore une fois, c'est des choix qui sont très très perso. La plupart des gens, je sais que dans l'équipe, il y a plusieurs personnes qui ont des gamins, ils veulent couper. Tout le monde respecte ça. Après, moi, je trouve que c'est aussi un des avantages du remote. C'est justement la possibilité de dire, j'ai pas forcément besoin, si j'en éprouve pas l'envie, de créer cette coupure, etc. Donc typiquement, moi, ça m'arrive plein de fois de dire, l'après-midi, des trucs bêtes, quoi. Je dois aller amener ma moto au garage, par exemple. Ça m'arrange de le faire en plein après-midi. Je le fais. Et du coup, je dis à tout le monde, là, je coupe et je bosserai ce soir. Ou même, donc ça, c'est aussi un avantage, cette flexibilité. Moi, perso, à partir du moment où le cadre de travail est vraiment agréable, j'ai pas de difficulté. Alors, mon cas est vraiment particulier, comme je le disais tout à l'heure. Moi, j'ai toujours même codé le week-end, en vacances. Moi, coder, c'est un plaisir. Donc, je suis un exemple un peu particulier là-dessus.
Ouais. Mais du coup, donc une question qui me vient, c'est mais est-ce que tu arrives à savoir le nombre d'heures que tu travailles? Parce que, est-ce qu'il n'y a pas aussi le... Enfin, tu dis que d'accord, c'est ta passion de coder, que tu adores coder même pour le plaisir, mais bon, ça reste aussi un travail. Donc, tu vois, est-ce que tu arrives à voir quand tu dépasses, si tu dépasses est-ce que tu te poses la question?
Alors, c'est vrai que on ne fait pas un suivi. Alors, je crois que dans l'équipe, il y a des freelances qui le font, qui utilisent des outils comme Toggle, par exemple, qui permettent vraiment de traquer de manière assez précise le temps qui est passé sur des projets. C'est très utilisé par des freelances parce que, notamment des freelances qui facturent à l'heure ou autre, ça leur permet de faire ce suivi-là. Après, pour les salariés, et moi, à titre perso, je ne le fais pas, enfin, c'est chacun
qui se gère, en fait. Chacun est libre.
Ouais. C'est ça. Et ensuite, alors, je suis d'accord qu'il peut y avoir des fois, du coup, des excès, dire je me retrouve à travailler beaucoup trop. Comme je disais, je pense que c'est à chacun de mettre en place le rythme, vraiment rythmer son quotidien. Je me lève le matin, à partir de quelle heure je me mets au boulot, quand est-ce que je prends ma pause déjeuner. Je pense qu'il y a des personnes qui... ont sûrement envie d'avoir un rythme de vie très rythmé comme ça. Et c'est tout à fait possible de le faire. Après, des gens qui travaillent beaucoup et qui font des très grosses journées, en fait, il y en a plein, surtout dans nos boulots, Moi, des gens qui bossent, qui font des journées de beaucoup plus de 8 heures, j'en connais. Après, moi, je trouve que quitte à bosser, et bon, voilà, moi, j'ai monté des boîtes, je suis plutôt côté... moi, ça ne me pose pas de problème de bosser beaucoup, à condition que mon travail, justement, reste un plaisir. Et typiquement, être dans un open space tout seul à 19h, quand on voit tous les collègues qui s'en vont, ça m'est arrivé, mais trop de fois, quand je bossais en ESN, parce que tu es à la bourre sur un projet, il faut bosser, tu le fais, tout le monde s'en va et toi, tu es tout seul dans ton open space. C'est horrible. Moi, quitte à devoir faire ça, quand il y a des coups de bourre, ça arrive, je préfère mille fois le faire soit chez moi, ou alors je suis dans un endroit sympa, à l'extérieur, il fait beau, du coup, je n'ai pas de difficulté à travailler un peu plus tard. Ça, déjà, c'est un point vachement important, c'est se créer un environnement de travail qui soit agréable. Et après, c'est trouver avec sa boîte, et ça, on revient à la culture d'entreprise, je pense qu'il y a vraiment un côté donnant-donnant. Si à un moment, il y a un rush, et dans l'informatique, ça arrive tout le temps qu'il y ait des périodes de bourre, on se serre les coudes, tout le monde est là, et c'est là où c'est important qu'il y ait une cohésion, même en remote. Du coup, on s'appelle, on voit que tout le monde est là, on bosse, on fait ce qu'il y a à faire. Et une fois que ça s'est fait, s'il faut prendre du temps de récupération, s'il faut dire, écoute, là, je suis claqué, j'ai bossé tard, demain, je prends ma matinée, il n'y a aucun problème pour le faire. Et il faut que la boîte... Enfin, moi, je trouve que je n'ai pas de difficulté à faire des efforts pour la boîte si j'ai le sentiment qu'en retour, la boîte fait les mêmes efforts pour moi quand j'en ai besoin.
Et un truc que je me demandais, je ne sais pas si les gens vont se poser cette question aussi, mais c'est par rapport à la confiance. C'est-à-dire que là, vous êtes chacun chez vous ou, je sais pas, dans d'autres pays, enfin, peu importe, vous avez un travail à faire. Est-ce que... c'est-à-dire que ça peut faire peur, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment, tu t'embauches quelqu'un, tu ne le vois pas forcément, tu ne sais pas comment il va travailler, il faut lui faire confiance sur le fait que le travail va être fait, que la personne va suffisamment bosser. Tu vois ce que je veux dire ? Donc là, tu vas me dire, c'est culture d'entreprise aussi. Est-ce que ça se passe facilement ? Est-ce qu'il y a eu des cas où voilà, il y a des employés qui ne faisaient pas bien leur taf ? Comment ça s'est passé ?
Ouais, c'est une excellente question. En particulier, moi j'ai beaucoup bossé en freelance aussi, et aussi bien en entreprise qu'en freelance. La confiance, c'est la clé. C'est-à-dire qu'une fois que la confiance elle est établie, tout devient plus facile. C'est-à-dire que tous les sujets qui sont un peu pourris de, entre guillemets, tout ce qui va tourner autour du flicage, en fait, hein, suivre. Et d'ailleurs, c'est intéressant que tu parles de ça, c'est pas lié au remote. Il y a beaucoup, même en France, pendant des années, on avait la culture du badge, les employés badgeaient pour savoir à quelle heure ils arrivaient le matin, à quelle heure ils partaient le soir. Pourtant, ils n'étaient pas en remote. Idem, le nombre de fois où j'ai vu des équipes qui étaient complètement dysfonctionnelles, tout le monde était démotivé, et en fait, personne ne foutait rien toute la journée, malgré le fait qu'ils étaient tous là.
Oui, c'est vrai que c'est pas parce que tu es sur place que tu travailles. Mais en fait, là, je pense que dans l'imaginaire commun, enfin dans l'esprit, on peut se dire, ah mince, mais il n'y a pas de contrôle. Enfin, il y aura aucun... C'est-à-dire que pour des gens qui ont envie de contrôler, c'est pas possible. Enfin, ça va être compliqué. Ils vont t'appeler, c'est-à-dire qu'ils vont vérifier que tu es en train de travailler. Comment... Je pense que ce n'est pas évident de lâcher prise, peut-être quand tu montes une structure comme ça, et de partir du principe, je fais confiance, j'embauche des gens, ils vont faire le taf.
Alors, c'est vraiment une super question. Je pense qu'il y a deux situations qui sont très différentes. Tu as le cas d'une entreprise où le remote est déjà installé, tout le monde bosse déjà en remote. Voilà, c'est le cas de Launcher, si quelqu'un demain arrive chez Launcher, on fait le pari de la confiance. Donc, l'idée, c'est que, par défaut, on fait confiance aux gens. Après, à partir du moment où le projet fonctionne bien, c'est-à-dire dans l'équipe, tout le monde bosse, s'il y a quelqu'un qui produit vraiment beaucoup moins que les autres, en fait, ça se voit tout de suite. Et ça peut être lié à beaucoup de choses. Même si, en fait, la très grande majorité des gens, c'est ça qui est intéressant, c'est que quand tu dis, il y a plein de gens qui s'inquiètent et un peu dans l'imaginaire collectif, on se dit, mais si la personne est à distance, qu'est-ce qu'il me dit qu'il bosse pour moi, qu'est-ce qu'il va rien faire? En fait, le cas des gens qui réellement sont, parce qu'ils sont à distance, foutent rien entre guillemets, en tout cas, travaillent pas beaucoup, c'est une petite minorité des gens. La très grande majorité des gens, quand tu leur fais confiance et qu'ils sont motivés par le projet, et qu'ils voient que tout le monde travaille, et ben en fait, ça se passe bien. Donc ça, c'est quand même important à dire. Et il y a effectivement, parce qu'il ne faut pas être naïf, des quelques cas, et c'est arrivé chez Venture, il y a eu quelques personnes, et on le voit, donc c'est des personnes qui soit sont pas là au meeting, ça c'est le truc le plus flagrant, le mec, de temps en temps, sans prévenir, il n'est pas là. Ou autre. Après, je sais qu'on a l'habitude, quand on doit s'absenter dans la journée, bah, on se dit, et justement, parce qu'il n'y a pas cette espèce d'inquiétude de dire, putain, si je dis que je m'en... Là, j'ai besoin de... Là, en fait, j'aurais vraiment besoin d'arrêter de bosser. Mais je ne me sens pas à l'aise pour le dire. Donc, je vais avoir tendance à le cacher. Et ça crée des situations malsaines. Au contraire, je vais sur Slack, je mets un message, et je dis, je vais m'absenter 2 heures. Aucun problème. Je fais ça aussi souvent que je veux. Donc, je le dis, et donc, c'est transparent. Donc, il n'y a pas de... côté, moi, je vais être pris la main dans le sac et tout. Tout ça, en fait, c'est assez nocif, quoi. Du coup, donc ça, c'est le cas d'une boîte où c'est déjà établi. Faire le pari de la confiance et ensuite, quelqu'un qui ne bosse pas, honnêtement, ça se voit tout de suite et justement, ça crée un malaise au sein de l'équipe. Quand tu as 7-8 personnes qui bossent et qui se défoncent sur le projet, parce qu'ils aiment le projet, parce que justement, ils ont un cadre de vie et de travail agréable, bah, du coup, voilà, tout va bien. Et il y a une personne au milieu où on voit bien qu'il ne bosse pas. Donc, soit c'est qu'il y a un problème. Bon, dans ce cas-là, il y a eu des personnes dont on s'est séparé, hein, tout simplement. Et ça peut être aussi... En tout cas, c'est quelque chose qu'il faut creuser. Pourquoi est-ce que ça ne va pas? Est-ce que la personne, elle n'ose pas poser des questions des fois? Enfin,
Après, je pense qu'il y a plein de cas. Et puis, ça peut être quelqu'un pour lequel cette organisation ne convient pas. Parce qu'en fait, ce qui ressort en fait, dans ce que tu dis, c'est que finalement, des gens qui choisissent ce type d'organisation, ce full remote, ça les motive. Hein. Enfin, il y a une certaine... comment dire ? J'ai l'impression qu'ils ressentent... ce qui ressort, en fait, c'est qu'ils sont encore plus contents de leurs conditions. Et du coup, au contraire... ils peuvent être plus productifs, encore plus motivés, encore plus contents en fait, de faire partie du projet. Mais on peut imaginer que pour d'autres personnalités, au contraire, peut-être l'isolement, le fait de pas avoir des gens physiquement autour de soi, ça peut plomber en fait. Peut-être que ça démotive et ça rend le travail plus compliqué.
Ouais, tout à fait. Donc par rapport à ça, bon, comme je le disais tout à l'heure, je pense que c'est important de garder une vie sociale, quoi qu'il arrive. Maintenant, au-delà de ça, est-ce que le remote est fait pour tout le monde? Bien sûr que non. Il n'y a aucun mode de travail, style de vie qui correspond à tout le monde. Donc pour les gens qui ne se reconnaissent pas dans le remote, je sais qu'il y a des locaux chez Venture. Il y en a à Montpellier, il y en a à Paris. Moi, dans ma boîte, donc Corporico, on a des locaux à Paris, mais pour la partie dev produit, tout le monde est à distance. Bon, c'est ensuite. Mais donc, avoir des locaux et donc du coup pas avoir besoin d'avoir des locaux immenses parce que ça concerne moins de postes de travail, c'est pas du tout impossible. Donc, avoir des locaux, c'est pas incompatible avec le fait d'avoir une boîte organisée en remote. Ça, c'est une chose. Je pense que la situation est un peu différente pour des boîtes qui veulent se lancer dans le remote. Des boîtes où tout le monde est colocalisé, ils veulent démarrer le remote, ça c'est une situation assez différente. Moi c'est un des exemples de situations où le remote n'était pas complètement satisfaisant. Je me suis retrouvé une fois en freelance tout seul à être en remote dans une équipe. Ça clairement ça crée un décalage, quoi.
D'accord. Donc et du coup alors pour des boîtes, des petites boîtes qui se montraient. Qui aimerait partir sur ce modèle full remote, est-ce que tu aurais des conseils?
Ouais, complètement. Il faut que les personnes, donc si la boîte démarre de zéro et que ils souhaitent faire le full remote, entre guillemets, ça va se faire. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut que le projet fonctionne bien, c'est-à-dire qu'un projet qui déjà ne fonctionne pas quand les gens sont tous autour d'une table, tu les mets tous aux quatre coins de la France, ça va exploser en plein vol. Mais voilà, donc déjà avoir une organisation au sein de la boîte qui soit un projet, être capable de délivrer. De toute façon, c'est la première étape. Une fois qu'on est capable de délivrer, avoir des gens qui bossent en remote, quand tout le monde est en remote et que la boîte se construit petit à petit, ça va se faire aussi. C'est ce que nous, on a fait chez Corporico, ça marche. Après, le cas des gens qui ont une équipe entièrement colocalisée et qui font venir une première personne en full remote. Il faut vraiment faire en sorte que la personne, elle se sente à part entière au sein de l'équipe. Et donc, je pense que c'est difficile d'avoir un gros déséquilibre entre le nombre de personnes qui sont dans la même, qui bossent en colocalisé dans le même bureau et le nombre de personnes qui sont en remote. Donc, soit il y a un choix de dire on souhaite utiliser le remote parce que c'est un super outil de recrutement, ça marche très bien. Donc, se dire, OK, on en recrute un, puis deux, puis trois, et du coup, on crée un équilibre entre les personnes qui sont en remote et les personnes qui sont colocalisées. Ça, c'est important. Je pense que clairement, le modèle où il y a une personne à distance et il y en a 7 ou 8 à côté, c'est clairement pas l'idéal. Et surtout, la clé, c'est faire en sorte que les personnes qui sont en remote se sentent intégrées à l'équipe autant que les autres. Et donc, typiquement, un truc très clair, les réunions. Ça, c'est vraiment, je pense, le plus important. Le pattern où il y a 6 ou 7 personnes autour d'une table avec soit, dans le meilleur des cas, projeté sur un écran, la visio avec la personne qui est à distance, dans le pire des cas, sur un des PC, il y a la personne, donc en fait personne ne le voit, lui en fait il est complètement à côté de la réunion, ça c'est vraiment super mauvais. La première chose à faire, c'est de dire les réunions se font chacun avec casque et visio. Donc, ça me paraît déjà un premier moyen de déjà limiter tous les problèmes liés des trucs bêtes, caméra, micro, quoi. Quand on fait des réunions où tout le monde est à distance et on fait ça tout le temps, en tout cas tout le monde est avec caméra, micro dans la réunion, en fait ça marche très bien. Quand on fait une fois par semaine une réunion avec Jean-Paul qui est à distance, et ben à chaque fois c'est problématique, le son est pourri, on l'entend pas bien, ou alors il n'ose pas s'exprimer. Il faut que tout le monde soit sur un pied d'égalité vis-à-vis de, voilà, de ça au sein de la réunion.
Du coup, ça me fait penser qu'il y a peut-être du matériel à avoir en particulier quand tu es en full remote finalement. Peut-être un bon casque, enfin, je ne sais pas toi si tu as investi dans des choses et si tu recommandes des choses à avoir absolument.
Ouais, clairement. Ça me semble obligatoire. Tout le monde dans l'équipe doit avoir à minima un casque avec un micro. Ça, c'est obligé. Moi j'ai investi dans un casque, donc moi à titre perso j'utilise un casque dont je suis très content, qui est le Sennheiser Momentum, que j'ai acheté il y a longtemps et qui marche très bien. Le casque avec réduction de bruit est quand même super agréable, notamment moi qui bosse souvent dans des cafés à l'extérieur ou autre, des fois il y a un peu de bruit ambiant, ça c'est important. Et justement par rapport au bruit de fond, alors là le tips qui est vraiment la base de la base, c'est seule la personne qui parle à son micro allumé.
Ah oui.
Ça, c'est obligatoire. Sinon, c'est un enfer. Entre les chats, les enfants, les ambulances, c'est infernal.
Oui, les chats, oui. Alors, je ne sais pas si tu penses qu'on a fait le tour. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter ou si tu as un dernier message à passer aux gens qui nous écoutent.
Du coup, moi, ce que je dirais, c'est que le remote, déjà, est quand même vraiment une tendance de fond, surtout chez les devs, mais pas que. Clairement, maintenant, c'est devenu un classique d'avoir de proposer du remote, soit partiel, soit total. Le remote, c'est pas un perks, comme on dit. C'est pas, en gros, ouais, venez chez nous, c'est cool, il y a un baby-foot, il y a des canettes de coca dans le frigo et on fait un jour de remote par semaine. Le remote, c'est vraiment un mode d'organisation au sein de la boîte. C'est justement la possibilité pour des gens qui en ont l'envie, et il y en a de plus en plus chez les devs, de pouvoir organiser sa vie comme on le veut. Je pense que c'est une chance qu'on a dans notre métier de pouvoir travailler à distance facilement. Donc, les gens qui ont envie de le faire, je pense qu'ils ont raison de vouloir essayer. Du coup, bah voilà, il y a plein de boîtes, de plus en plus de boîtes des startups, mais pas que, qui proposent du full remote. Donc, je parlais de Launcher, on recrute des devs, mais vraiment sur beaucoup de postes, des graphistes, etc. Donc,
je mettrai les liens, je mettrai des liens de toute façon, si tu veux.
Voilà, exactement. Je sais qu'il y a d'autres, il y a d'autres startups. Regardez sur Paris, il y en a beaucoup qui, justement, pour des sujets de recrutement, commencent à comprendre qu'il y a beaucoup de devs qui ne sont pas tous à Paris et qu'il y en a certains qui ont envie de bosser pour ta boîte, mais du coup, ils n'ont pas forcément envie de déménager pour autant. Donc voilà, et donc mon conseil, ce serait essayer. Ça marche très bien en freelance. Ça marche très bien en tant que salarié aussi. Et pour les personnes qui ont une boîte et qui hésitent un peu, je laisserai mon mail, mon contact dans les notes, etc. Il y a des gens qui ont des questions à poser. Moi, c'est un sujet que j'adore. Je serais ravi de répondre si jamais il y a des gens qui ont des questions. Mais vraiment, mon message, c'est essayer. Il y a vraiment beaucoup à y gagner. Voilà, faut essayer.
Ok, super. Écoute, merci beaucoup Vincent. Et puis moi, ce que je retiens aussi de cette organisation, c'est que c'est une super opportunité pour avoir entre guillemets une double vie, pour peut-être faire du dev et d'autres choses en fait à côté.
Ouais, voilà, exactement. Tous ceux qui s'intéressent un petit peu à ces sujets-là, le mot-clé c'est digital nomade. Il y a énormément de contenu qui est produit là-dessus. Et moi, je trouve qu'effectivement, c'est une façon intéressante de repenser et réinventer le travail.
Ok, super. Écoute, merci.
Merci.
J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à venir en discuter sur notre blog, blog.humancolors.com, et puis à nous suivre sur les réseaux sociaux Twitter et LinkedIn. Je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode.